Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. L'équilibre des forces au Proche-Orient semble en pleine recomposition. Fer de lance des forces de la contre-révolution face au printemps arabe, puis du putsch égyptien. Le royaume saoudien est aujourd'hui très proche des autorités du Caire, en même temps que menacé par l'ascension fulgurante de l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, dont les forces ne sont par endroits qu'à quelques dizaines de kilomètres de la frontière saoudienne. Menace djihadiste à laquelle vient s'ajouter la sensation d'encerclement par les forces chiites qui préoccupent de manière permanente et accrue le régime saoudien, particulièrement depuis la prise du pouvoir par la rébellion des Houthis au Yémen voisin, la constitution par Riyad d'un grand front sunnite face à l'organisation de l'État islamique et à l'Iran, bute sur la persistance des tensions entre le Qatar et l'Égypte, regard sur la politique régionale de l'Arabie saoudite avec nos invités et en partenariat avec l'IREMO, l'Institut d'études et de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Nos invités donc Denis Bochard, ancien ambassadeur de France en Jordanie, consultant notamment auprès de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de Le Nouveau Monde Arabe aux éditions André Versailles. Bonjour.
Bonjour.
David Rigoulet-Rose, chercheur rattaché à l'IFAS, l'Institut d'analyse stratégique, et chercheur associé à l'Institut prospective et sécurité en Europe, auteur de plusieurs ouvrages dont Géopolitique de l'Arabie Saoudite aux éditions Armand Collin, et rédacteur en chef de la toute nouvelle revue Orient Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Dallage, rédacteur en chef à RFI, spécialiste des questions internationales et auteur notamment de ces 30 ans qui ébranlèrent le Golfe Persique aux éditions du Cygne. Bonjour.
Bonjour.
La situation donc créée par l'émergence de l'organisation de l'État islamique est particulièrement complexe pour l'Arabie saoudite qui se retrouve aux prises avec un nouveau front, une nouvelle menace. En plus de la menace chiite, celle de djihadistes de l'État islamique, l'Arabie saoudite est aujourd'hui engagée dans la construction sur plus de 800 km d'un système de surveillance longeant sa frontière avec l'Irak. L'Arabie saoudite doit aujourd'hui faire face donc à trois dangers, la question chiite et son affinité avec l'Iran, la situation au Yémen, la subversion salafiste et djihadiste sur fond finalement de grandes rivalités avec le Qatar. Est-ce qu'on peut dire que la fragilisation de l'Arabie saoudite sur ses frontières est une menace pour le royaume, Denis Bochard?
Écoutez, effectivement, sans parler véritablement d'encerclement, parce que je pense que la menace vient surtout du nord et de l'est, l'Arabie saoudite est effectivement face à un certain nombre de problèmes pour sa sécurité. L'Arabie saoudite est un régime qui est collégial, ce qui rend difficile les prises de décision, surtout à un moment où s'est organisée une transition, mais qui manifestement n'est pas achevée. Donc, on a senti depuis plusieurs années un certain flottement dans le leadership de l'Arabie saoudite. Le roi n'est pas le seul maître, ce n'est pas un dictateur. Il doit, je dirais, gérer collégialement avec la famille des Saouds. Et je pense que petit à petit, on voit se dégager quelques lignes de force, en particulier, je dirais, une contribution à l'organisation d'une contre-révolution contre le printemps arabe, qui a une certaine efficacité, et également maintenant un engagement de façon très nette contre les djihadistes, en particulier ceux qui les menacent au nord, Daesh, mais également Al-Qaïda, la péninsule arabique, qui effectivement entretient des troubles au sud, dans le Yémen.
Lorsque vous parlez de succession, juste pour nos auditeurs, on peut leur rappeler donc la mort en janvier dernier du roi Abdallah et son successeur, le roi Salman. David Rigoulet-Rose, vous partagez ce que vient de dire Denis Bochard?
Oui, effectivement, c'est une phase délicate pour le royaume. C'est probablement un moment charnière d'ailleurs. Jamais jusqu'à présent, le royaume ne s'est retrouvé confronté simultanément à autant de défis, donc à autant de menaces. Et il y a une fragilisation, effectivement, une perception du danger qui est beaucoup plus importante qu'elle n'a jamais été, à la fois du danger djihadiste, donc vous évoquiez sur la frontière avec l'Irak, la poussée de l'État islamique, mais également une perception quand même d'encerclement du nord au sud. Il y a la question, effectivement, du Yémen qui prend une acuité particulière avec le mouvement Houthi sur ses frontières. C'est une frontière très sensible pour les Saoudiens, avec le jeu troubles évidemment des Iraniens, et donc ça s'inscrit dans la perception plus globale de la menace d'une supposée hégémonie iranienne sur le Golfe et en particulier sur ses frontières. Donc il y a incontestablement pour le Royaume une période extrêmement délicate à gérer, compte tenu d'une transition qui n'est pas totalement achevée effectivement, même si le roi Salman, comme c'était prévu, a accédé au trône, mais compte tenu des tensions qui peuvent traverser la famille royale, les choses restent complexes.
Alors, période délicate à gérer, Olivier Dallage, c'est ce que vient de dire David Rigoulet-Rose, et je reprends ma question, est-ce qu'on peut parler de véritables menaces pour le royaume saoudien ?
Oui, l'Arabie Saoudite, en fait, est menacée depuis sa naissance. On a toujours annoncé la fin de l'Arabie Saoudite à diverses périodes. Il y a eu la crise du pétrole, il y a eu la révolution iranienne, il y a eu toute une série d'incidents, l'occupation du Koweït. Et puis, il y a la réalité, la perception. La réalité est très dangereuse et c'est celle qui vient d'être décrite rapidement, on y reviendra. La perception, c'est qu'ils ont encore plus peur. Comment dire ? Ils exagèrent sans doute leurs craintes et leurs peurs par rapport à cette réalité qui est déjà suffisamment dangereuse. C'est-à-dire que les dirigeants saoudiens se voient effectivement encerclés par l'Iran, en voyant la main des dirigeants iraniens dans tout ce qui leur pose problème. Et très franchement, ça n'est pas la réalité. Mais à force de le répéter, l'Iran en tire bénéfice. C'est-à-dire que quand on reconnaît à l'adversaire une force, eh bien, cet adversaire se renforce.
Alors, ces répétitions, elles ont évidemment un sens. Et on pense à la relation avec les États-Unis, Denis Beauchat.
Oui, la relation avec les États-Unis est une relation qui remonte à 1945, l'acte fondateur étant l'entretien entre Ibn Saoud et le président Roosevelt, peu de temps d'ailleurs avant sa mort. Entretien totalement informel, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de traité de signé, mais qui effectivement a fondé une alliance stratégique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, fondée sur une sorte d'échange entre un approvisionnement pétrolier pour les États-Unis dans des conditions, je dirais, de prix convenables et sûres, et d'autre part, une protection américaine pour la famille des Saoud, pour leur maintien face déjà à des menaces qui existaient.
Alors, cette alliance stratégique, est-ce qu'elle est aujourd'hui menacée ? On pense à plusieurs choses. David Rigoulet-Rose, on pense aux attentats du 11 septembre. On pense à cette question du pétrole, l'indépendance pétrolière des États-Unis, la baisse des prix du pétrole. Voilà, comment se situent les choses aujourd'hui ?
Alors, cette alliance, effectivement, du pacte du Kunsi, elle est formellement toujours réaffirmée. Mais il y a des doutes quand même, surtout du côté saoudien. Il y a des incertitudes qui sont liées à l'évolution de la situation géopolitique. Les Saoudiens ont le sentiment qu'il y a un éloignement de la part des États-Unis et donc que l'assurance américaine devient moins crédible. Pour mémoire, je citerai la phrase de Chuck Hagel qui a déclaré récemment que la sécurité fournie par l'armée américaine ne pouvait pas être une garantie permanente et ultime et qu'il fallait que le CCG s'organise aussi lui-même, prendre ses responsabilités, etc.
Le Conseil de coopération du Golfe.
Donc, il y a quand même des doutes qui commencent à affleurer et qui participent justement de cette inquiétude saoudienne par rapport aux autres problèmes qui viennent d'être mentionnés, même si, bon, elle est réaffirmée, effectivement, puisqu'elle a été renouvelée en 2005, officiellement, mais compte tenu de ce qui s'est passé depuis le 11 septembre, du rapprochement qui semble s'esquisser avec l'Iran, il y a des vraies inquiétudes sourdes qui se manifestent à Riyad sur cette question.
Olivier Dallage.
Oui, mais il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que si on fait la liste des griefs des uns et des autres, elle est interminable. Si on fait la liste des raisons pour lesquelles, de bon cœur, ils font alliance, on n'en trouve pas beaucoup.
Alors, pas d'alternative, et pour qui ?
Pour les deux. Pour les Américains et pour les Saoudiens. C'est-à-dire que les Américains ont maintenant une relative autonomie énergétique, ils n'ont plus besoin du pétrole du Golfe, avec le gaz de schiste, avec les découvertes dans le Golfe du Mexique et partout ailleurs. Mais se retirer de la région du Golfe, ça revient à inviter les autres. Les autres, c'est qui ? Ça peut être l'Iran, ça peut être la Russie, ça peut être la Chine. Et de toute façon, ça n'est pas bon pour la puissance américaine. Donc ils ne le feront pas. Et puis il y aura une question de crédibilité. Les Saoudiens voient Obama comme un nouveau Carter qui avait lâché le Shah d'Iran. Mais les Américains ne peuvent pas se permettre de lâcher les monarchies du Golfe parce que immédiatement tout leur système d'alliance dans le monde entier subirait une crise de crédibilité. Donc ils n'ont envie ni l'un ni l'autre de cette alliance et aucun des deux ne peut s'en passer.
Denis Bochard.
Oui, c'est effectivement un mariage forcé. Et il y a un mariage de raison. Et effectivement, en général, les mariages de raison fonctionnent mieux que les mariages d'amour. Donc c'est un petit peu, je dirais, une relation sur le thème « je t'aime, moi non plus ». Et ça peut durer encore quelques temps, parce qu'effectivement, les griefs sont très nombreux. Et certains sont exprimés de façon très, très vocale, très forte, y compris au niveau du roi d'Arabie Saoudite, y compris au niveau du rapport annuel du département d'État dénonçant toutes les atteintes aux droits de l'homme qui peuvent exister en Arabie Saoudite, dénonçant l'absence de liberté religieuse, qui pour les Américains est quelque chose de très important. Et à l'inverse, les Saoudiens sont révulsés, ont été révulsés par le départ, par le lâchage du président Moubarak. Ils craignent de nouvelles alliances, d'un basculement des alliances et que en quelque sorte, au Moyen-Orient, ce soit l'Iran qui devienne l'allié des États-Unis. Donc, ceci étant, effectivement, il n'y a pas d'alternative. Il y a une politique de diversification des interlocuteurs, des partenaires de la part de l'Arabie Saoudite, notamment dans le domaine économique, puisque la Chine est maintenant le premier client et le deuxième fournisseur du royaume. Mais il est clair que ce n'est pas la Chine qui va garantir la pérennité de la famille royale. Et même s'il y a des relations qui se renforcent plutôt avec certains pays européens, y compris la France, là aussi, ce n'est pas la France ou l'Allemagne qui viendra véritablement au secours de la famille royale s'il y a une menace qui se concrétise.
Vous écoutez RFI. Marie-France Chatin.
Alors, dans le contexte actuel, on l'a évoqué, l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Quelles sont les questions qui, globalement, se posent à l'Arabie Saoudite en termes de politique étrangère, David Rigolet-Rose? On a parlé de l'Iran, peut-être c'est l'occasion d'approfondir un petit peu et de comprendre les menaces que cela fait peser sur l'Arabie Saoudite.
Justement, c'est tout le problème. Cette obsession iranienne induit un certain nombre de choix de la part de l'Arabie Saoudite qui peuvent, à moyen terme, lui coûter très cher. En l'occurrence, quand il s'agit de trouver un pendant à l'expansion supposée iranienne, la chose la plus simple, en général, c'est de financer des mouvements à caractère sunnite qui sont susceptibles, justement, de s'opposer à l'avancée chiite iranienne. Et dans ce cadre-là, il y a une ambiguïté, effectivement, par rapport au soutien apporté à certains groupes extrémistes de la part des Saoudiens, parce que, sur le moment, il y a un choix tactique, mais qui, à moyen terme, peut se retourner contre eux. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a un précédent avec la guerre d'Afghanistan, le retour des Afghans arabes. Hein,
en l'occurrence, c'est ce qui se passe actuellement. On est totalement dans ce paradoxe, justement,
c'est ça,
de la politique
c'est toujours
saoudienne.
C'est un peu ce piège autoconstruit de la part des Saoudiens qui fait que, aujourd'hui, effectivement, les menaces sont directement sur les frontières avec la pression de l'État islamique dans la zone de Harar, justement, sur la frontière avec la zone d'Anbar en Irak. Et on sait très bien qu'il y a effectivement un nombre conséquent de Saoudiens dans les rangs de l'État islamique. Donc il y a ce problème à gérer qui est un problème externe, mais en fait interne également.
Olivier Dallage.
Oui, d'autant que l'État islamique n'a pas fait mystère de sa volonté de se débarrasser des monarchies du Golfe. Au mois de novembre dernier, al-Baghdadi a fait un discours dans lequel il parlait de la famille royale comme de la tête du serpent. C'est amusant parce que c'est exactement la même expression que celle que le roi Abdallah avait utilisée pour parler d'Iran quelques années plus tôt dans une conversation avec des Américains qui avait été rendue publique par les télégrammes Wikileaks. Et puis, je dirais, autant il n'y a pas de différence sur le fondement idéologique des deux, autant c'est justement ça qui rend absolument impossible tout compromis, parce que, comme Al-Qaïda avant l'État islamique estime que l'Arabie Saoudite trahit le message wahhabite. Je simplifie, mais c'est un petit peu ça. Et de toute façon, il n'y a pas la place pour les deux. Donc, ils sont bien obligés dans cette coalition, alors même que, probablement, beaucoup d'entre eux, à la direction et encore plus dans la population, partagent une grande partie des thèses de l'État islamique. Et même s'ils les trouvent peut-être excessives dans leur façon de faire, c'est une bonne façon de se débarrasser des chiites ou de leur donner une bonne leçon. C'est ça, sommairement, le point de vue de beaucoup d'entre eux. Mais on peut pas faire de compromis avec des gens qui veulent se débarrasser de vous.
Alors, justement, pour ce que vous parliez de l'islam, est-ce que l'on peut dire que finalement la promesse d'une renaissance du califat islamique fait voler en éclats ce qui restait de l'autorité du magistère saoudien sur l'islam sunnite ? Denis Bochard.
Je veux dire, pas à ce point, mais il y a effectivement une concurrence directe, c'est clair. Car le mouvement Daesh a une volonté, je dirais, à la fois territoriale, mais également d'expansion idéologique, de créer un homme nouveau, d'apparaître comme... face à la menace qui ferait peser l'Occident sur l'islam, Daesh prétend donner une réponse, et une réponse effectivement qui ne peut que agacer, si ce n'est plus, les autorités saoudiennes qui se veulent, comme gardiens des lieux saints, qui se veulent effectivement promouvoir l'islam à travers le monde, à travers des réseaux, à travers des fondations, à travers la Ligue islamique mondiale, etc.
Et l'un des soucis de l'Arabie saoudite aujourd'hui est de parvenir à créer une coalition des pays du Golfe, des pays de la péninsule arabique contre l'État islamique. Alors, David Rigoulet-Rose, avec des tensions très fortes avec le Qatar.
Oui, notamment. Alors c'est vrai qu'à la faveur du printemps arabe, la tension avec le Qatar a pris une dimension considérable, puisqu'il y avait un axe turco-qatari qui a financé effectivement la mouvance des frères. Des frères musulmans, avec la prise du pouvoir donc en Tunisie, en Égypte, avec la suite que l'on connaît. Et donc cette tension n'a pas disparu, simplement elle est relativisée en ce moment, à mesure où les Saoudiens ont le sentiment que justement il y a une primauté de la menace iranienne. Et donc dans un jeu de représentation qui s'opposerait à un supposé croissant chiite, il s'agirait de constituer un arc sunnite justement, par-delà les divergences qu'il peut y avoir entre les membres du Conseil de coopération du Golfe, justement pour taire un certain nombre de ces tensions qui de toute façon vont perdurer. Hein, elles vont perdurer. On a vu d'ailleurs que ces tensions avaient été relativisées dans l'affaire yéménite parce que les Saoudiens ont besoin justement de ne pas, ils peuvent pas en combattre sur deux fronts, et en l'occurrence vis-à-vis de la mouvance des frères musulmans, il y a et notamment avec l'affaire d'Égyptienne, on a vu qu'il y avait une tentative pour taire en tout cas ces tensions, même si elles demeurent, parce que de toute façon il y a un cavalier seul du Qatar depuis un certain temps, et donc cette rivalité perdure.
Alors, oui, Denis Bochard.
Oui, je pense que clairement l'Arabie Saoudite s'est engagée dans la coalition contre Daesh. Mais sans doute de façon moins nette que d'autres, pour différentes raisons, notamment parce qu'il est clair, comme on le rappelait tout à l'heure, que l'opinion publique, il y a tout au moins une partie de l'opinion publique, a une certaine sympathie pour Daesh. Donc en fait, l'action de l'Arabie Saoudite prend des formes plus discrètes, mais qui peuvent être efficaces. Par exemple, contribuer par la diplomatie du chéquier à inciter financièrement un certain nombre de tribus irakiennes de se dégager de l'emprise de Daesh. Ça peut être aussi, je dirais, un combat idéologique. Un certain nombre de responsables religieux importants en Arabie Saoudite dénoncent Daesh, dénoncent ses combattants qui ne sont pas des musulmans, qui sont des terroristes, même qui sont des apostats, je dirais, crime suprême en pays d'islam. Et puis, je pense qu'effectivement, les autorités saoudiennes ont sans doute asséché des financements directs qui pouvaient exister au profit d'un certain nombre de mouvements suspects, et sans doute on essaye de verrouiller les fondations ou les membres de la famille royale qui seraient tentés, je dirais, de continuer à financer ces mouvements.
David Rigoulet-Rose, je voulais qu'on reparte sur la notion, ce que vous évoquiez à l'instant, David Rigoulet-Rose, ces axes stratégiques entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Ça sera peut-être l'occasion de démarrer là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que cet axe stratégique est incompatible avec cet autre axe, avec le Qatar et l'axe qataro ou qatari
Il est difficile à gérer. Rapidement. Il est difficile à gérer, mais effectivement, le nouveau roi Salman essaie de faire la synthèse. En ce moment, il y a manifestement une modification relative par rapport à la position assez intransigeante du roi Abdallah là-dessus. Donc il y a une tentative de convergence relative en ce moment qui se produit effectivement entre Riyad et Doha.
Denis Bochard.
Effectivement, actuellement, on sent que la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte est en train de se repositionner un petit peu. L'Arabie Saoudite est, je dirais, le poumon financier de de l'Égypte par milliards de dollars. Et la compensation, naturellement, c'est que l'Égypte, je dirais, soit cohérente avec leurs propres idées. Et on sent effectivement une certaine évolution, s'agissant en particulier d'une atténuation de la brutalité de l'Arabie Saoudite à l'égard des frères musulmans.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Denis Bochard, David Rigoulet-Rose et Olivier Dallage dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique régionale de l'Arabie Saoudite. Nous retrouvons nos invités Denis Bochard, ancien ambassadeur de France en Jordanie et consultant notamment auprès de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. David Rigoulet-Rose, chercheur rattaché à l'IFAS, l'Institut d'analyse stratégique, et rédacteur en chef de la toute nouvelle revue Orient stratégique. Et Olivier Dallage, rédacteur en chef à Radio France Internationale, spécialiste des questions internationales. Nous avons évoqué, bien sûr, dans la première partie de l'émission, les trois dangers auxquels l'Arabie Saoudite fait face aujourd'hui, la question chiite et son affinité avec l'Iran, la situation au Yémen et la subversion salafiste et djihadiste, avec en particulier bien sûr l'émergence de l'État islamique en Irak et en Syrie, et la difficulté, Olivier Dallage, je me tourne vers vous, pour l'Arabie Saoudite à constituer une coalition sunnite face à l'État islamique.
En tout cas, c'est un objectif stratégique qui est clairement affirmé face à ce qui est perçu comme la menace chiite et iranienne, qui était fortement esquissé déjà du temps du roi Abdallah et qui est encore plus clairement affirmé depuis l'avènement du roi Salman. Et il n'y a pas que les monarchies du Golfe. Les problèmes avec le Qatar sont en cours de résolution, le Qatar ayant fait beaucoup de concessions aux Saoudiens. Il y a aussi la Jordanie et l'Égypte et la Turquie. L'Égypte est le point central. C'est en fait la seule armée qui compte. C'est le seul grand pays arabe qui est en mesure de faire pièce éventuellement à la puissance iranienne. L'Irak étant dans l'état de déliquescence que l'on connaît, étant en plus dirigé par un premier ministre chiite, une majorité chiite. Et il y a la Turquie. Le problème, c'est que la Turquie et l'Égypte ne s'entendent pas du tout autour de la question des frères musulmans. Et donc, il semblerait que le roi Salman, moins obsédé apparemment que ne l'était son prédécesseur par les frères musulmans, cherche à rapprocher les positions turques et égyptiennes. Les deux chefs d'État, d'ailleurs, étaient présents simultanément il y a quelques semaines à Riyad. Ils se sont, en principe, pas rencontrés, en tout cas officiellement. Mais ce qui est clair, c'est que le niveau des critiques réciproques a baissé d'un ton après ce voyage de Riyad.
Alors, vous évoquez la question des frères musulmans. Il y a aussi, entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, et l'Arabie Saoudite et le Qatar, finalement, des visions très opposées concernant en particulier les printemps arabes. Est-ce là une importance aussi, Denis Bochard ?
Tout à fait, bien que là aussi, il y ait une évolution. Le Qatar est moins en flèche qu'il ne l'a été dans le passé, s'agissant du soutien aux frères musulmans, notamment en Égypte. S'agissant de la Turquie, effectivement, l'AKP est un mouvement proche idéologiquement des frères musulmans. Mais là aussi, compte tenu des déboires diplomatiques de la Turquie, on sent également une certaine évolution qui pourrait permettre effectivement d'organiser cette coalition, cet axe sunnite face à Daesh. Ceci étant, ces pays ont des intérêts et des objectifs tout de même qui restent assez différents. Certes, l'Égypte veut contrer la menace de Daesh, mais pas tellement cette menace qui est autour de l'Irak et de la Syrie, mais plutôt la menace qui vient de l'Irak.
De Libye.
Car effectivement, la Libye, c'est un peu une arrière-cour de l'Égypte. Traditionnellement, il y a des relations fortes. Il y a plusieurs millions de travailleurs immigrés égyptiens qui sont en Libye. Et donc, là, ça représente, je dirais, un axe prioritaire pour l'Égypte, puisque récemment encore, le maréchal Sisi a demandé à ce qu'il y ait une intervention internationale sanctionnée par le Conseil de sécurité qui puisse contrer cette menace.
La Libye, qui divise aussi, ou en tout cas oppose aussi, le Qatar et l'Arabie Saoudite, David Rigoulet-Rose.
Ah oui, c'est incontestable. D'ailleurs, c'est un trou noir en fait en ce moment avec l'implantation de l'État islamique dans la zone de Derna. C'est vrai que c'est un marché d'armes à ciel ouvert. Donc on voit bien que ça métastase dans toute la région jusqu'en Tunisie avec les événements. Évidemment, un certain nombre de questions sont soulevées. On retrouve cette tension entre Riyad et Doha sur l'affaire libyenne, en sachant qu'effectivement le maître d'œuvre du renversement de Kadhafi, c'était surtout le Qatar, évidemment. Donc le Qatar Qatar avait préempté un rôle géopolitique majeur en Libye, avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui. Et donc, avec Riyad, la tension a été très forte. Et ça explique justement la position de Riyad sur la lutte contre les frères musulmans au niveau régional. Il soutient au président Sissi, justement. On a vu avec le bombardement par l'armée égyptienne de certaines places fortes de l'État islamique en Libye.
Alors, avant de parler de politique intérieure à l'Arabie Saoudite, Olivier Dallage, quelques mots, ça permettra sans doute de faire la transition sur le Yémen et la question yéménite qui préoccupe, je l'ai dit en introduction, l'Arabie Saoudite avec la prise du pouvoir par les Houthis à Sanaa qui sont de religion chiite.
Mais le Yémen, c'est de la politique intérieure saoudienne. Une légende veut que sur son lit de mort, le fondateur du royaume Ibn Saoud, le roi Abdelaziz, aurait dit à ses fils « Le bonheur du royaume réside dans la misère du Yémen ». On ne sait pas si c'est vrai. Ce qui est certain, c'est que presque tous les Yéménites sont convaincus que c'est vrai. Et donc, ça a polarisé les relations entre les deux pays, qui ont une population à peu près équivalente, le Yémen probablement un peu plus que l'Arabie Saoudite, et qui occupe une part importante de la péninsule arabique. Donc, susciter une instabilité chronique au Yémen a toujours été un axe majeur de la politique saoudienne, quitte à faire des alliances contre nature, par exemple, avec les anciens communistes du sud Yémen. Le problème, c'est que l'instabilité au Yémen a atteint un niveau d'ébullition tel que maintenant, ça menace le royaume lui-même.
On est dans les paradoxes, là aussi, de la politique étrangère saoudienne.
Et quand on attaque les Houthis, comme ils l'ont fait en bombardant en 2009 ce mouvement, qui à l'époque n'était pas encore pas très important, et que ça, c'est un échec pour les Saoudiens. Bon, on dit chiite. C'est vrai, les Zaïdites, qui font à peu près 35% de la population du Yémen, sont considérés comme des chiites. Mais ils n'ont rien à voir ni avec les Iraniens, ni avec les Bahreïniens, ni avec les Libanais. Le problème, c'est qu'à force de dire que c'est des chiites soutenus par l'Iran, ça finit par être vrai. Et quand les Houthis finissent par prendre le pouvoir à Sanaa, ça renforce qui ? Ça renforce les extrémistes sunnites d'Al-Qaïda, qui eux aussi sont contre l'Arabie Saoudite. Donc, on se retrouve avec deux factions rivales et ennemies mortelles en Arabie Saoudite, au Yémen, pardon, qui toutes les deux en veulent à l'Arabie Saoudite.
Denis Bochard, vous souhaitez rajouter quelque chose ou on part sur la politique intérieure en Arabie Saoudite, la situation
effectivement, intérieure. C'est, comme le disait Olivier Dallage, le Yémen, c'est de la politique intérieure, ne serait-ce que parce qu'il y a plusieurs millions de travailleurs yéménites qui travaillent en Arabie Saoudite, et ne serait-ce aussi parce que le sud de l'Arabie Saoudite a été prélevé, annexé par le roi Ibn Saoud dans les années 30, si je ne me trompe pas. Alors effectivement, s'agissant de la politique intérieure, à ces éléments, je dirais yéménites, s'ajoutent des éléments chiites également qui sont de la politique intérieure, puisque dans la province de Dez, en province du Hassa, les chiites sont majoritaires et ce sont des chiites arabes naturellement, mais qui se trouvent par coïncidence heureuse ou fâcheuse sur les sites majeurs pétroliers de l'Arabie Saoudite. Donc c'est une communauté qui a toujours été très surveillée, qui est discriminée, qui a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne dans le royaume. Il y a eu une évolution récente pour être un petit peu plus conciliant, mais pour l'establishment wahhabite pur et dur, ces chiites, ce sont des apostats. Donc il y a toujours une discrimination assez forte. Mais là, effectivement, cette communauté, qui est sans doute effectivement un peu travaillée par la propagande iranienne, peut constituer un élément d'instabilité dans le royaume.
Alors, pour parler de la majorité sunnite en Arabie Saoudite, est-ce que l'on peut imaginer l'organisation de l'État islamique constituer finalement une sorte de catalyseur d'un mouvement de protestation en Arabie Saoudite ? Et globalement, qu'est-ce que l'on sait de la ligne politique qui va être défendue par le nouveau roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman David Rigoularose ?
En matière de sécurité interne, il y a une constante, c'est-à-dire tout ce qui est un danger potentiel de déstabilisation est réprimé férocement. Il y a des précédents, hein. Lorsqu'il y avait eu la campagne d'attentat en 2003-2004, l'ancien ministre de l'Intérieur, père de l'actuel d'ailleurs, Mohamed bin Naïef, qui servait déjà son père à l'époque, le prince Naïef, c'était une répression féroce contre toute le forme de déstabilisation. Et alors ça s'étend éventuellement aussi à des formes d'expression politique qui ne sont pas forcément à caractère violent. Donc il y a un spectre de la répression qui est très large et qui permet de qualifier de terroriste tout ce qui va déstabiliser l'ensemble sociétal saoudien. C'est le problème d'ailleurs, parce qu'effectivement, tout le monde est un peu mis dans le même sac. Il y a eu des manifestations, des expressions par Twitter, puisque les Saoudiens sont sur la planète ceux qui utilisent le plus Twitter. Donc c'est intéressant, c'est un mode de circulation de l'information qui est très rapide, très très efficace, et qui est mobilisé justement par l'État islamique. Et on sait qu'il y a effectivement des tentations qui se manifestent et des appels à déstabilisation en interne, ce qui fait très peur au régime, bien sûr.
Olivier Dallage.
Le royaume saoudien n'a jamais été très tolérant pour son opposition, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors depuis quelques mois, des nouvelles dispositions ont été prises, des décrets-lois, qui qualifient d'acte terroriste toute critique du régime. C'est-à-dire qu'on a atteint quand même un niveau exceptionnellement grave de la répression. Et en effet, les réseaux sociaux sont très utilisés par la société civile et par des opposants. Mais la police saoudienne est assez bien faite et ça permet de trouver assez rapidement aussi qui sont ces opposants, en traquant l'adresse IP. Et il leur arrive un mauvais sort pas longtemps après.
Denis Bochard.
Je pense que, à terme, sans doute, la menace principale intérieure, c'est la jeunesse saoudienne. Les moins de 25 ans représentent de l'ordre de 60% de la population.
Une population de 30 millions d'habitants.
De 30 millions d'habitants. Certes, il y a eu un printemps arabe avorté, grâce, je dirais, à la générosité du pouvoir qui a inondé de milliards, à la fois en termes d'investissement, mais également en termes de financement, je dirais, d'assistance. Donc il n'y a pas eu véritablement de printemps arabe en 2011 en Arabie Saoudite, mais tous les ingrédients d'un printemps arabe sont là, c'est-à-dire une jeunesse nombreuse, une jeunesse de plus en plus éduquée, y compris à l'étranger, une jeunesse frustrée, une jeunesse qui connaît un taux de chômage très, très important, un régime qui connaît une corruption particulièrement forte. Donc tout est là, je dirais, pour susciter un mouvement qui se manifeste effectivement via Twitter et Internet, qui est pour l'instant sous contrôle, mais à terme, est-ce que le pouvoir, s'il ne se réforme pas, peut continuer à contrôler cette population ?
Olivier Dallage.
On a beaucoup parlé de la contestation chiite, de la contestation des femmes qui voulaient conduire, de la contestation de mouvements religieux plus ouverts ou au contraire plus conservateurs. Moi, je voudrais revenir sur un épisode pratiquement oublié du début 2011. C'était en janvier, donc l'hiver. Mmh. Il pleuvait, comme ça arrive souvent en cette saison, à Jeddah, et il y avait des inondations parce que les égouts débordaient, parce que les infrastructures n'étaient pas à la hauteur. Et il y a eu des manifestations spontanées dans les rues de Jeddah dénonçant la corruption, parce qu'évidemment l'argent était là, mais il n'avait pas été utilisé comme il l'aurait dû pour permettre l'adduction d'eau, les évacuations des eaux usées, etc., etc. Et ces images des manifestations étaient postées sur YouTube. Et ça a été une grande crise interne. L'Arabie Saoudite a fait le nécessaire pour que ce soit retiré de YouTube. Mais je veux dire, c'était une manifestation, une contestation a priori non politique, mais en réalité très politique, parce qu'en dénonçant la corruption, alors qu'il y a beaucoup d'argent au sommet, on est au cœur de la problématique politique. Et je rejoins totalement ce que vient de dire Denis Bochard, c'est-à-dire que tous les ingrédients de la contestation sont encore là. La répression empêche qu'elle s'exprime. L'argent qui est déversé, notamment à l'avènement du nouveau roi, des nouvelles sommes ont été distribuées généreusement. Mais ça n'aura qu'un temps, parce que même si les ressources du royaume sont considérables, elles ne sont pas illimitées, la population monte et les problèmes demeurent.
Alors justement, vous parlez d'argent, Olivier Dallage. Je me tourne vers vous, David Rigolet-Rose. La chute des prix du pétrole, ça ne va pas arranger la situation évoquée par Denis Bochard et Olivier Dallage, avec tous les ingrédients d'une forte contestation qui sont donc là, présents en Arabie Saoudite.
Absolument, et c'est un défi considérable, parce que manifestement c'est un choix tactique dans l'immédiat pour des raisons, j'allais dire, géopolitiques. Les Saoudiens ont décidé de laisser plonger le cours du baril. Le problème, c'est que le baril, c'est évidemment la quasi-totalité des recettes budgétaires, etc. Et donc, quand on a une population jeune qui a des attentes considérables, c'est un jeu dangereux. Et c'est un jeu dangereux, d'ailleurs, qui a été pointé par un personnage qui n'est pas membre de la famille politique, mais c'est le prince Walid bin Talal, le prince milliardaire, qui a trouvé que c'était une politique extrêmement dangereuse pour la stabilité du régime, qui pouvait pas se permettre justement ce genre de choses, et il enjoignait l'ancien roi Abdallah et l'actuel justement à ne pas poursuivre cette politique qui est qualifiée quasiment de suicidaire au regard des besoins de la population. Il y a le défi de ce qu'on appelle la saoudisation, c'est-à-dire donner un emploi à ces jeunes saoudiens. Il y a quasiment 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail par an. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas employables en tant que tels parce qu'il y avait la rente pétrolière jusqu'à présent. Et donc c'est vrai que se passer de cette manne pétrolière pour des raisons géopolitiques essentiellement externes, hypothèque considérablement la stabilité du régime, en tout cas à moyen terme.
Jeu géopolitique évidemment dirigé contre les États-Unis, dont l'Arabie Saoudite ne voit pas d'un bon œil l'indépendance énergétique qui est à leur porte.
D'abord contre la Russie et l'Iran, puisque c'était un moyen de faire payer à court terme effectivement des positionnements qui contredisaient les intérêts saoudiens. Et puis c'est un jeu à double détente. Effectivement, c'était aussi par rapport à la stratégie d'indépendance énergétique américaine concernant les gaz et pétrole de schiste. C'était voir jusqu'à quel niveau les États-Unis étaient prêts à descendre pour justement assurer cette indépendance. Or, il se trouve que c'est un jeu dangereux parce que manifestement à $50 le baril, aujourd'hui avec les progrès technologiques dans la fracturation hydraulique, les champs américains peuvent être rentables. Donc la stratégie à moyen terme de Riyad est extrêmement dangereuse et contestable.
Alors, pour terminer cette émission sur l'Arabie Saoudite, vous évoquiez la contestation, la répression, la corruption. Est-ce que le régime saoudien est réformable, Denis Bochard, s'il veut survivre d'une certaine manière?
On peut toujours réformer, mais est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, ce qu'on pourrait appeler le risque Gorbatchev? C'est-à-dire qu'en voulant réformer, on risque de toucher aux piliers de l'édifice et que tout s'écroule. Le roi Abdallah avait pratiqué une politique de réforme discrète, mais modeste. Tant en ce qui concerne, je dirais, l'aspect politique, avec effectivement quelques mesurettes qui permettaient aux Saoudiens de voter dans un certain nombre de conseils municipaux. Il a accepté le principe du vote des femmes, qui n'est pas encore mis en œuvre. Tout ceci est effectivement assez timide par rapport à l'importance des enjeux et par rapport aux pressions qui existent dans une société qui a changé considérablement depuis plusieurs décennies. Je pense que les réformes sont nécessaires. Sans doute le roi Salman en est conscient, mais il faut concilier ça avec, je dirais, une politique sécuritaire qui, effectivement, actuellement assimile tout opposant, je dirais, un terroriste.
Ça fait beaucoup de fronts, tout cela, Olivier Dallage.
Oui, l'Arabie Saoudite n'a connu que deux réformateurs à sa tête, le roi Faisal et le roi Abdallah, qui tous les deux avaient des réputations justifiées d'ailleurs d'être extrêmement conservateurs, et les prétendus pro-occidentaux, proches des Américains, etc., se sont avérés être très réactionnaires et très timorés. Je pense en particulier au roi Fahd, et tout indique que ce sera également le cas du roi Salman, parce que probablement ils ont moins de lettres de crédit religieuses à faire valoir que les deux dont j'ai parlé. Il faut aussi se rendre compte que la famille roi royal a grandi en nombre, on est, je ne sais plus à combien, mais certainement au-delà de 10 000 princes, qui sont essentiellement intéressés à leur bien-être individuel et pas tellement au bien-être collectif de la population. Et quand on passera à la deuxième génération, il ne faut pas s'imaginer que la jeunesse va tout découvrir, ce sera une distribution des postes et les jeunes seront là pour longtemps, c'est-à-dire qu'à mon avis, on est là pour un blocage qui va durer très 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 longtemps. Le problème de l'Arabie Saoudite, à part l'alternative violente que peuvent constituer Al-Qaïda ou Daesh, c'est qu'il n'y a pas d'alternative politique suffisamment crédible et que donc on est dans un système qui va s'auto-perpétuer. Donc je suis plutôt pessimiste en matière de réforme, que ce soit économique ou politique.
David Rigoulet-Roz.
La notion de réforme en tant que telle pose problème, parce que effectivement par rapport à l'assise du régime, il y a l'alliance wahhabite saoudienne depuis l'origine, et le fait même de réformer, c'est intégrer le devenir et les mutations qui posent problème justement au régime. C'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Ils savent qu'il faudrait faire des réformes, mais en même temps ils savent pas comment les faire. On est dans une logique effectivement totalement décalage par rapport à l'urgence des défis. Et c'est tout le problème. Effectivement, vous évoquiez également seulement les princes, il y a 200 grands princes aujourd'hui qui peuvent prétendre d'ailleurs accéder au trône. On voit bien que ça va être un combat féroce parce que le gâteau quand même se réduit compte tenu justement des enjeux par rapport à la population qui a augmenté, etc. Et donc ça va être extrêmement difficile pour le régime de réformer, ou alors il faudrait qu'il y ait j'allais dire un accident majeur qui l'oblige à le faire.
Un accident majeur ?
Bah, un accident majeur, ça voudrait dire éventuellement un renversement du régime, soit venant de l'extérieur, soit en interne, avec toutes les conséquences évidemment que ça peut supposer.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Denis Bochard, ancien ambassadeur de France en Jordanie, consultant notamment auprès de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et auteur de Le Nouveau Monde Arabe aux éditions André Versailles, David Rigoulet-Rose, chercheur rattaché à l'IFAS, l'Institut d'analyse stratégique, et chercheur associé à l'Institut prospective et sécurité en Europe, auteur de plusieurs ouvrages, dont Géopolitique de l'Arabie Saoudite aux éditions Armand Collin, et rédacteur en chef de la toute nouvelle revue Orient Stratégique, et Olivier Dallage, rédacteur en chef à RFI, spécialiste des questions internationales et auteur notamment de ces 30 ans qui ébranlèrent le Golfe Persique aux éditions du Cygne. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission réalisée en partenariat avec l'IREMO et signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique sera consacrée à l'Iran justement. À très bientôt.